encore une petite version pour ceux qui avaient pas entendu. Je pense qu'en hymne de là-bas, si j'y suis, ça serait mieux qu'un moto. Salut, courage et... C'est vachement couillu quand même. Hein. Allez, bisous, ciao, c'était Polo. Salut.
Oh, quelle merveilleuse journée. Après 1792, novembre 2003, à Strasbourg, on a eu en 1792 la Marseillaise, et là, nous avons Raffarin, nous voilà. C'est magnifique. Bravo. Allez, ciao.
Oui, bonjour, c'est Agathe au 04 78 68 64 10 à Lyon. Hein. J'ai hâte d'entendre le chant pétiniste là, et ça me... C'est pour ça que je vous téléphone, parce que depuis longtemps j'avais envie de le faire. J'ai 73 ans. Donc j'ai connu la guerre toute petite, et tous les relents de pétinisme que j'ai pu entendre, ça m'a toujours fait penser, que ça soit sur le travail, la blouse des gamins, enfin bon bref, plein de choses. Je me suis dit que vraiment on retournait sur le régime de Pétain. Enfin bon, n'exagérons pas, mais c'est vraiment grave. Et je voulais dire aussi que je vote depuis qu'on a le droit de voter. Et que j'avais jamais connu un gouvernement aussi moche que celui-ci, dédaigneux des gens auxquels il s'adresse, menteur, incapable et tout. Et que vraiment là, c'est pas pour moi, je suis trop vieille, mais pour mes enfants et mes petits-enfants, c'est vraiment la crainte et presque le désespoir, quoi. Allez, merci Daniel, au revoir.
Bonjour à toutes et à tous, ici Andréa de Strasbourg, Pierre-Alain Sartou et Soriano Rigoureux. Nous venons respectivement des lycées Philippe Lamour à Nîmes et lycée Geneviève de Gaulle-Antonioz à Millau dans le Gard.
Nous avons parcouru 750 km dans le cadre d'une formation de délégués pour apprendre la notion de citoyen, mais surtout pour assister à une des plus prestigieuses émissions de radio en France. Merci. 1, 2, 3.
Citoyen en vote.
Nicole Raouf, conseillère principale d'éducation au lycée de Gaulle, Geneviève Antonioz. Nous sommes donc du Gard et nous venons dans votre belle ville de Strasbourg pour une formation de nos élèves de seconde, une formation de délégués travaillant sur...
La démocratie, la représentativité, la citoyenneté.
Et nous venons assister à votre émission pour voir fonctionner justement le droit de presse et à la parole.
Merci et à tout à l'heure.
Citoyennement vôtre.
Je suis en train d'écouter l'émission, là, qui se passe en direct à Strasbourg, là, et puis je voulais remercier France Inter, et en particulier forcément Daniel Mermet pour ce grand moment de radio, là, c'est bien, ça me botte, des trucs comme ça, là, la parole aux citoyens, aux gens énervés, mais qui ont des choses à dire, quoi, et qui font des choses, là, c'est de la radio, ça me botte bien, ça. Ciao!
Petit menuisier ébéniste à Seyant, dans le Var. Moi, je voudrais remercier Monsieur Mermet, hein, pour le reportage qui est fait ce soir au Parlement européen, avec les intermittents du spectacle qui ont envahi une émission de France Inter. Je trouve ça vraiment très bien. Ça me rassure un peu sur l'état de notre État, qui me semblait devenir très fascisant. Et le fait de pouvoir entendre des gens qui peuvent encore s'exprimer, d'une manière dans les plus hautes institutions qui nous représentent, d'une manière a priori totalement libre, me ravit d'émotion. J'ai pas d'autre mot, et je suis vraiment très content d'entendre la chorale des intermittents. Je suis musicien, je suis trompettiste, je joue de la basse à piston, enfin bon. Très content d'entendre tout ça. Merci Monsieur Mermet, au revoir.
Eh ben merci pour vos merci, merci à tous pour la journée d'hier à Strasbourg, merci à la chorale des interlutants, et oui, ils s'appellent comme ça, les interlutants, pour leur formidable interprétation de ce que vous savez. Merci aux auditeurs qui sont venus hier, merci à tous ceux qui nous ont reçus, nourris, abreuvés, supportés et regonflés, et bon, merci aussi aux élèves de l'école du Bahut, là, de Geneviève Antonioz de Gaulle, un beau titre pour un établissement scolaire. Voilà, et puis pardon à tous ceux à qui on n'a pas pu donner la parole, mais on n'a qu'une toute petite émission, modeste et géniale, mais qui ne fait qu'une heure. Alors aujourd'hui, à l'occasion de la réédition d'un livre de Jean-Luc et Nick, qui a fait beaucoup de bruit, qui a fait un certain bruit, enfin vous allez voir de quoi il retourne après une pelletée de messages, beaucoup de réactions aussi après les deux reportages de Claire Otter avec Emmanuel La médecin de campagne. Je rappelle le numéro du répondeur, 01 56 40 37 37.
Oui, bonsoir. Eh bien, je voulais remercier Daniel pour son émission d'aujourd'hui sur la doctoresse, effectivement, comme on dit. Voilà, moi, mon père est médecin de campagne aussi. Et je dois dire, j'ai été vraiment touché par cette émission parce que on parle pas assez souvent de ces médecins, parfois libéraux, effectivement, mais quand même, qui bossent tous les jours, quotidiennement, et qui prennent soin de nos paysans et de nos petits vieux dans les campagnes, s'ils les laissent pas crever, comme on a pu le voir cet été. Donc voilà, je voulais remercier Daniel pour cette émission qui m'a vraiment touché.
Bonjour, c'est Nicole de Caen. Je voulais vous dire que j'avais écouté les deux émissions concernant Emmanuel Gilbert et le médecin de Saint-Rémy, et je voulais vous dire que vraiment c'était une émission pleine d'émotions, et que contrairement à la dame qui était intervenue sur le répondeur cet après-midi en disant qu'il y en avait marre de la tristesse, je pense qu'il faut pas confondre tristesse et émotion, quoi. Les émotions, c'est ce qui nous fait vivre. Donc cette émission, elle était pleine d'émotions, et puis moi je pense que c'était une vraie leçon de vie, quoi. Aussi bien Emmanuel que tous les patients qu'on a pu entendre, il n'y avait pas de tristesse, quoi. Il y avait la vie, tout simplement. Et ben la France d'en bas, on l'a aussi entendu, donc ça, c'est bien. Voilà. Au revoir.
Oui, bonjour, ici Annabella Orange du comité de Tchétchénie de Paris. Je vous laisse ce message pour vous informer qu'il y aura le 22 novembre prochain une journée d'information et de réflexion au sujet de la Tchétchénie à partir de 13h avec des débats, des interventions, un buffet tchétchène, de la danse, de la musique, des projections de films, donc de 13h à 22h. Ça se passera au CICP, au 21 Terre, rue de Voltaire, 75 011 Paris, métro, rue des Boulets. Cette manifestation est ouverte à tous. Nous vous y attendons nombreux.
Allô, Daniel Mermet. Alors, en direct du conseil municipal de la bonne ville de Vitry-sur-Seine, sur l'affaire des Roms, eh bien le maire a décidé de ne rien décider du tout. Ou plus exactement, il a quand même décidé de ne toujours pas accepter de mettre l'eau, ni l'électricité, ni quelque assistance que ce soit aux Roms qui sont dans des caravanes, dans une situation critique. Et par ailleurs, il préfère mobiliser la population pour manifester contre le gouvernement, ce qui le regarde. Mais par contre, rien du tout pour les Roms, et surtout, ne pas trop éviter de préférence de scolariser les enfants, parce que c'est embêtant de scolariser les enfants. Voilà. Eh ben, ça promet. Bravo, monsieur Loubert.
Salut Daniel, toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, je voulais juste vous signaler qu'aujourd'hui dans Nord et Clair, on apprenait le suicide d'un ex-Metal Europe après avoir tué sa femme.
Ultime message. Dieu est un esturgeon centenaire, aux écailles étincelantes, et qui se moque des pêcheurs. Signé, un poisson rouge.
Mon amour, de l'aube claire jusqu'au plus profond des jours, mon amour. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Quoi qu'il advienne et quoi qu'on nous fasse, l'inoubliable souvenir des années dépassées, mon amour. In excelsis Deo, in nomine Patris, i filius i spiritus, i filius i spiritus sanctus.
Cette petite chansonnette vous était offerte par la cordonnerie Le Chaboté, 8 rue Philippot à Miramont de Guyenne.
réparation et entretien de vos chaussures, mais aussi de vos blousons, cartables, ceintures, sacs, courroies, bâches, tentes, harnachements d'équitation, fermeture éclair, semelle orthopédique, teinture. Vous trouverez également au Chaboté différents produits d'entretien. Voilà, le Bouif a pété les plombs.
Oh, trou du cul, qui forme un rond parfait entre deux collines. Tu es comme un vase plein de muscles, précieusement gardé par ces deux masses de chair. Tu es comme un melon fendu en deux, et l'architecte le plus célèbre ne pourrait former un plus beau groupe, car l'art ne peut pas l'emporter sur la nature. Oh, cher cul, étonnant chef-d'œuvre, quelle charmante beauté tu déploies quand on soulève le voile qui te couvre. On aperçoit des montagnes, des vallées et un bosquet au milieu. Et j'approuve les braves gens qui choisissent cet endroit pour leur demeure.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Jean-Luc Hénic, là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving.
N'oublions pas les noix. Le profond, la mine, le terrier, l'isoloir, le caramel, le berlingot, le petit écu, le trou de balle.
Tourner le bouton.
Le résonnant, le bouffi et le rembourré.
Ou tirer le verrou.
Le président.
Aujourd'hui.
L'ami des fauteuils et le confident des coussins.
Le fouet défendu.
Le reposoir.
Aujourd'hui.
Le valseur.
Les joues de la
le
nuit.
Petit frère. L'autre
aujourd'hui,
de tasse,
cet astre qui s'est fait
de pique,
une partie parmi les astronomes. Aujourd'hui,
à Rome, la huitième
balade,
colline.
Sur la forme,
l'anneau grec,
et jusqu'au
le passage
fond,
de Corinthe,
ce fondement,
et le petit goulot de Ganymède,
qu'on oublie,
le père Fauré,
avec Jean-Luc Hénic,
le souterrain de la rue de la Dune,
amateur de prose,
le four, la porte arrière,
et d'envers,
le cercle.
Aujourd'hui,
qui peut être intime, très fermé, ou au contraire de famille, ou bien
vicieux.
La rondelle, la margelle, l'anneau,
chose.
L'anneau de Saturne, le poster, l'arrière-train, l'annexe, l'entrée des artistes, la face cachée de la lune, la bouche d'ombre, et le joufflu, la boîte à gaz, la chambre noire, le commerce
odieux. Là-bas, si j'y suis.
Le chenal de Satan, le trou d'enfer, le couloir de la malédiction, l'huile noire, le puits de nulle grâce, le seuil de la très longue peine, le passage des amateurs et le défilé des gourmands, la lucarne, la lunette arrière, le petit cratère, le hublot du capitaine, le bocal, le boc, le pet, le pouet-pouet, la pièce de 10 sous, Troufignon et Troufignard.
Que jamais l'art abstrait qui sévit maintenant n'enlève à vos attraits ce volume étonnant. Aux temps où les faux-culs sont la majorité, gloire à celui qui dit toute la vérité. Votre dos perd son nom avec si bonne grâce qu'on ne peut s'empêcher de lui donner raison. Que ne suis-je, madame, un poète de race pour dire à sa louange un immortel blason. Pour dire à sa louange un immortel blason. En le voyant passer, j'en eus la chair de poule. Enfin je vins au monde et depuis je lui voue un culte véritable, et quand je perds aux boules, en embrassant Fanny, je ne pense qu'à vous. En embrassant Fanny, je ne pense qu'à vous. Pour obtenir, madame, un galbe de cet ordre, vous devez torturer les gens de votre entour. Donner au couturier bien du fil à retordre, et vous devez crever votre dame d'atour. Et vous devez crever votre dame d'atour. C'est le duc de Bordeaux qui s'en va tête basse, car il ressemble au mien comme deux gouttes d'eau. s'il ressemblait au vôtre. On dirait quand il passe, c'est un joli garçon que le duc de Bordeaux. C'est un joli garçon que le duc de Bordeaux. Ne faites aucun cas des jaloux qui professent que vous avez placé votre orgueil un peu bas, que vous présumez trop en somme de vos fesses. Et surtout par faveur, ne vous asseyez pas. Et surtout par faveur, ne vous asseyez pas.
L'auteur en quête de grand cul. Seul et pensif, je parcours nuit et jour toute la ville, non pour chercher des amis, des honneurs ou des trésors, mais pour trouver un grand cul. Lorsque je l'ai trouvé, je saute de joie, comme un chasseur qui a entrevu au fond d'un bois la possibilité de faire un beau coup. Je crois que c'est un grand plaisir pour un guerrier d'avoir remporté la victoire sur son ennemi, et pour un pilote d'avoir bravement sauvé sa vie de la fureur des flots. Mais je ne crois pas qu'il puisse être comparé au plaisir que donne une bonne enculade.
On les calomnie, on les humilie et pour finir on les oublie. C'est une partie de notre anatomie, dit-on, qui n'a aucune disposition naturelle ni même aucun intérêt particulier à être mise en avant. À défaut de les mépriser, on les traite par la gaudriole. Ce sont les femmes qui en font les frais. La plupart du temps, parce qu'elles en jouent, et les homosexuels parce qu'ils en usent, les autres apparemment s'en passent. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de fesses, de derrière, de fondement, de cul, de postérieur, de siège, de croupe, de popotin, de derge, de raie, de pro, de tralala, de fion, d'oignon, d'anus, d'orifice, d'étoile du soir, de sens interdit, de fruits défendus, de puits sans fond, etc., etc., de baigneur, de croque-monsieur, de sandwich, tiens. Voilà, sandwich, ça tombe bien. Ah, je suis tombé dessus. Jean-Luc et Nick, on va parcourir ces sphères jumelles sur lesquelles vous vous êtes étendus avec
délectation, on peut le dire.
Délectation, érudition, émotion. Hier soir, on faisait des contrepétries avec un ami. Alors, et puis ce matin, Jean-Luc, ça fait Jean-Cul.
Oui, ça c'est très connu. Hein, ça,
et Nick, Jean-Cul et Nick.
Oui, par exemple, on pourrait dire des choses comme ça. Hein, en effet, l'apôtre Luc ne serait peut-être pas ravi de ce genre de contrepétrie, mais enfin, on peut en effet faire des choses comme ça.
Ça ne me fait pas
forcément plaisir, mais bon.
Alors,
mais pourquoi? Bon. Parce que moi j'avais fait tout un tas de d'articles comme ça dans l'Écho des Savanes sur des détails de l'anatomie. J'avais fait par exemple le nombril, les cheveux, les seins, etc., etc. Et je me suis rendu compte quand même que les fesses étaient ce qu'il y avait de plus riche, de plus profond et de plus méconnu. Et donc je me suis dit qu'au fond, d'ailleurs, vous savez, il y a eu un livre récemment du photographe Jean Loussieff, qui s'appelle Derrière, un livre de photos magnifique, et qui dit qu'au fond, par rapport au visage, les fesses ont ceci d'intéressant, c'est qu'elles ne mentent pas. Le visage, lui, on peut le fabriquer. C'est du théâtre, le visage. On fabrique, on joue toute la journée un rôle, un masque, etc. Pas les fesses. Les fesses, on ne sait pas jouer avec les fesses. Enfin, certaines femmes, certaines stars, peuvent jouer des fesses, en effet. Mais c'est quand même... Les fesses, à un moment donné, s'abandonnent. Mmh. Et précisément parce qu'elles s'abandonnent, et précisément parce qu'on les voit toujours de dos, donc on est toujours voyeur des fesses, qu'on peut le mieux les voir s'abandonner. Et donc, elles disent quand même une certaine vérité. Cela dit, elles disent une vérité qui est parfois contraire à celle du visage. C'est-à-dire que on voit des belles fesses. Vraiment somptueuses, telles qu'on les aime, parce que chacun aime les fesses qu'il rêve. Et soudain, le visage se retourne et on est stupéfait. C'est la dégringolade, c'est pas le visage qu'on attendait. Alors là, on est blousé, quoi, on est floué. Et donc les fesses, d'une certaine manière, mentent un peu. Ça dit, comme disait Tournier, au fond, on peut pas aimer totalement quelqu'un par les fesses. Il faut aimer le visage de quelqu'un pour l'aimer vraiment.
Mais non, parce que vous nous dites, oui, les fesses ne peuvent pas mentir, on peut pas mentir avec ses... Mais enfin, il y a quand même une façon de les tenir, de les présenter, il y a la cambrure, il y a la façon d'en jouer, de rouler des hanches, des fesses, etc. C'est quand même pas rien, ça.
Non, c'est pas rien, c'est tout un art, en effet. Bon, il y a toutes les vedettes, évidemment, de Hollywood, étaient la première grande, je crois, enfin, il me semble, hein, mais peut-être, me trompais-je, c'est Mae West. Mae West fut vraiment la star du popotin, c'est-à-dire la star qui a roulé des hanches, qui a joué. Elle n'était jamais nue, pas plus que Marilyn Monroe n'a jamais été nue, sauf dans le dernier film, et encore, elle avait une serviette de bain, on ne l'a jamais vue nue. Et pourtant, Marilyn, bon, Mae West aussi, mais Marilyn avait un truc, c'est qu'elle portait des talons dont l'un était de 2 centimètres inférieur à l'autre. Si bien que c'était pas une cambrure en S, c'était une espèce de
claudication, voilà.
De truc horizontal. C'est-à-dire, elle avait une démarche horizontale. Elle allait de droite à gauche. Donc, vous imaginez le roulement des fesses, cette espèce
alors
de...
Alors, c'est
magnifique.
Alors, on va, parce que vous remontez quand même l'affaire très très loin. Vous commencez par le commencement.
Ben, c'est-à-dire qu'il a bien fallu que la fesse naisse un jour, oui.
Voilà, voilà. Et alors vous allez consultez Yves Coppens, vous consultez les grands anthropologues, grands paléontologues.
Oui, c'est-à-dire qu'il a bien fallu histoires. Que cette fesse, elle arrive. Or, il est évident que les singes n'ont pas de fesses. Donc, la naissance de la fesse se situe à peu près il y a 3 ou 4 millions d'années quand l'homme s'est redressé, quand la femme s'est redressée, autrement dit, à la naissance de la bipédie. Or, Lucie, qu'on a retrouvé, cet australopithèque qu'on a retrouvé là en Éthiopie, enfin Dieu sait où, cet australopithèque, elle avait des fesses, vous savez, elle pouvait à la fois courir à 4 pattes, ou grimper à 4 pattes sur les arbres parce qu'elle cueillait, mais elle se redressait quand elle était à terre, qu'elle ne bougeait pas. Seulement, évidemment, elle était poilue. Donc, cette jeune femme avait des fesses énormément poilues, exactement comme les noix de coco, si vous voulez. Elle avait des fesses extraordinairement poilues. Donc, évidemment, c'était une beauté très particulière. Cela dit, c'est vraiment la naissance de la fesse. C'est-à-dire que Lucie, à cette époque-là, bon, c'est une personne pas très très jolie, toute petite, 30 kilos, enfin bref, une enfant. Quoi. Et puis elle passait son temps à s'épouiller, elle mangeait ce qu'elle trouvait, elle mangeait des insectes et des choses comme ça. Mais enfin, c'est quand même la naissance de la fesse, en effet.
Mais à partir de quand est-ce qu'on peut situer l'attrait que nous éprouvons pour la fesse aujourd'hui, c'est-à-dire l'attrait érotique,
l'attrait amoureux. Les Grecs. Et la beauté masculine chez les Grecs, c'était, dit Aristophane, chez un homme, chez un athlète, chez un dieu, c'était une somptueuse paire de fesses et un sexe très petit. Parce que, sinon, eh bien, c'était un débauché, c'était un hirsute, une espèce de silène affreux, de débauché, quoi. Il avait les fesses plates et puis un sexe très long, donc il en usait, il en abusait, manifestement. Alors, les fesses féminines en Grèce ne sont arrivées que, et c'est quand même invraisemblable, c'est invraisemblable que quand les Grecs sont intéressés aux femmes, ils se sont intéressés surtout à leurs fesses. C'est-à-dire que quand on regarde la statuaire grecque, on regarde les seins. Il n'y en a presque pas. C'est-à-dire que ça se développe pas. Ça n'arrive pas à se développer. Mais alors, leurs fesses, c'est hallucinant. C'est-à-dire que ce qu'ils préféraient au fond chez une femme, c'était ses fesses.
Mais là, que faut-il penser, Jean-Luc Hennig, de ces deux attraits du corps féminin? Restons sur les femmes un instant, qui sont tantôt les seins, tantôt les fesses. On dit que les hommes peuvent se définir par rapport à l'attrait qu'ils éprouvent plus ou moins grand vis-à-vis de l'une ou l'autre partie du corps féminin, blason du corps féminin.
Il y a un éthologue qui s'appelle Desmond Morris qui explique qu'en fait, à l'origine, les hommes prenaient les femmes, avaient des rapports amoureux avec les femmes par derrière. More ferrarum, c'est-à-dire la façon des quadrupèdes, comme les animaux. Et donc, c'était les fesses qui étaient un signal. Elles étaient un signal. Et puis, quand les femmes quand ils se sont aperçus qu'en fait, c'était un peu, la fesse devenait un peu trop protubérante, c'était des femmes stéatopies, immenses, que c'était un peu trop encombrant, ils se sont tournés de l'autre côté. Parce que au début, c'était effectivement, il y a eu une mutation, c'est-à-dire qu'ils ont pris les femmes par devant. Et donc, il fallait bien qu'il y ait un signal sexuel. Donc ce signal sexuel, c'était les seins. Donc les seins se sont mis à grandir. Donc d'une certaine manière, entre les seins et les fesses, il y a une correspondance.
Analogie.
Correspondance totale.
Formelle, oui.
Et c'est-à-dire que c'est complètement parallèle. Oui. Il n'est pas indifférent non plus de voir que dans le maillot brésilien, cette espèce de maillot, voyez-vous, qui ne montre pas les seins, mais qui montre l'entièreté des fesses. Vous savez, ce maillot brésilien qui remonte quasiment jusqu'aux épaules.
Tout à fait. C'est-à-dire,
une sorte de ficelle qui est juste dans la rainure des fesses et on voit l'entièreté. Alors, ces espèces de fesses remontent tellement qu'on dirait des poires, qu'on dirait des gouttes d'eau, qu'on dirait ce qu'on veut d'ailleurs. C'est des fesses hallucinantes. C'est des fesses qui remontent jusqu'aux épaules.
Oui.
C'est invraisemblable. Donc, ce maillot brésilien cache les seins. Il y a jamais, finalement, on montre tantôt l'un, tantôt l'autre. En fait, tout joue sur l'un et l'autre.
Et la cravate de notaire, ce qu'on appelle la cravate de notaire.
Qu'est-ce qu'on appelle la cravate de notaire?
Je vous ferai pas ça. Après l'émission.
Pour prendre des bains, d'autres vont à la montagne avec des tas de bombins. Pour sortir des vingt sièges, d'autres vont se faire blanchir le derrière dans la neige, histoire de se rafraîchir. Pour éviter les frais, tout en suivant la mode, chez moi je prends le frais, les culs sur la commode.
Et si un jour on vient la prendre comme c'est la mode, je défendrai mon bien. Le cul sur la commode.
Le cul sur la commode.
Mérite d'un cul rond. Le plus grand bonheur en ce monde, à mon avis, est celui de trouver une femme qui ait le cul rond. Un cul fait comme une map monde vaut son pesant d'or. Et lorsqu'il est possible de le foutre, il n'est rien qui puisse lui être comparé. Il fait les délices des cardinaux, et les moines sont bien malheureux quand ils en sont privés. Je braverais tout pour foutre un cul ayant cette forme, et le diable lui-même ne me ferait pas peur.
On continue à travers la brève histoire des fesses. C'est vrai que après tout, 180 pages ou 200
250
pages.
250.
Oui. Ça paraît bien peu par rapport à...
On pourrait en faire 10 volumes.
Hein. Un sujet... aussi vaste, c'est un livre à picorer. Hein,
oui, tout à fait. C'est sous forme de dictionnaire. C'est-à-dire, ça part de afarensis, c'est-à-dire les australopithèques dont on parlait tout à l'heure, et ça se termine par voyeur. Donc, c'est une histoire qui n'est pas chronologique.
Vous évoquez la position de l'Église.
Oui.
Hein, par rapport
aux positions, c'est ça.
Par rapport aux positions, et vous évoquez Satan. Alors, le cul est satanique, hein, vous dites l'Église,
ah oui.
Mais Satan a-t-il un cul? C'est un peu ça, quand
voilà.
Même, la grande
Alors,
question.
En effet. Alors, ça ne se pose pas tellement, la position de l'Église, bon, disons que...
C'est celle du missionnaire, on la connaît.
Oui, alors, c'est celle du missionnaire, en effet. L'Église, évidemment, a toujours... interdit d'autres positions que cette position du missionnaire. Interdit en particulier la position More Ferrarum, la fameuse position des quadrupèdes. Voilà, la fameuse position des animaux. Pourquoi? Parce que c'est bas, parce que c'est vulgaire, parce que ça ressemble aux juments, disent les pères de l'Église, qui sont beaucoup penchés sur la question, depuis saint Augustin, en plus saint Thomas d'Aquin, etc. Ne parlons pas, évidemment, de la sodomie, qui est une autre position du même type, toujours
proscrite
à l'arrière,
proscrite
de toute façon jusqu'à aujourd'hui par l'Église. Ça, c'est évident. Nous n'en parlerons pas. Il n'est pas question de parler de la sodomie. La sodomie avec
une
les femmes,
oui.
Et qui évidemment ne date pas d'aujourd'hui. La sodomie, j'entends, parce qu'il faut être très clair, avec les femmes comme avec les hommes. Parce que quand Brantôme raconte des histoires de sodomie, il a un petit côté comme ça, un peu pincé dans la vie des dames galantes, en disant « non, c'est très laid, ça, mais toutes les femmes le font », dit-il. Et puis, au XVIIIe siècle, il est évident que libertins ont parlé de la sodomie. C'était de toute façon une façon très simple de contraception pour les femmes.
C'est ça, c'est la capote du pauvre.
C'était
quoi.
La capote du pauvre.
Alors, Satan.
Alors évidemment, Satan en profita, et il en profita surtout au Moyen-Âge, pendant les sabbats. Alors donc, il fallait embrasser le cul du diable. Et alors, on s'est beaucoup interrogé pour savoir si le diable, en fait, avait un cul. Ce qui est quand même la première chose à se demander. Alors, il y en a qui ont dit, non, il n'a pas de cul du tout. Et c'était justement la faiblesse de Satan de n'avoir pas de cul. Et précisément, Luther, Luther et puis beaucoup de saints aussi ont été tourmentés par Satan. Et Luther, pour se défendre, disait à Satan, lâche-moi le cul, et le Satan disparaissait immédiatement.
Ah bon, c'était radical.
Ou alors, il fallait, par exemple, il y a une coutume qui voulait que quand il y avait un orage, quand il y avait une calamité, etc., on passe le cul par la porte de sa maison et qu'on le présente à la nature entière pour éloigner tout ça.
Alors,
c'était une façon de dire l'homme, il a un cul, mais pas le mal, pas Satan, etc.
Alors, là, on est en train de parler de fesses, on est en train de parler de cul, on s'amuse parce que c'est un tabou, ça débauche des oreilles, des auditeurs, etc. À partir de quel moment il y a ce côté gaudriol, ce côté marrant, ce côté subversif aussi en même temps, ça commence quand? J'imagine qu'il y a des cultures, comme on dit des cultures comme ça où ça fait pas marrer qui que ce soit, ou au contraire, c'est... On s'en fout.
Depuis toujours, parce que on le retrouve chez les satiriques latins, chez Juvénal, chez Martial, on le retrouve aussi chez les Grecs, je citais Aristophane tout à l'heure, depuis toujours.
Mais chez les Inuits et chez les aborigènes d'Australie, qu'est-ce que c'est ton vécu des aborigènes d'Australie?
Raisonnablement, je n'ai fait aucune enquête chez les Inuits, ni chez les aborigènes d'Australie. Je pense que, somme toute, il y a quand même l'idée, d'une orientation du corps. C'est-à-dire que les fesses se trouve à l'arrière et en bas du corps. Or, dans toutes les cultures, quelles qu'elles soient, l'arrière et le bas sont dévalorisés par rapport à l'avant et au haut. Et c'est-à-dire que toujours le visage sera valorisé parce qu'il est dans le sens de la marche, parce qu'il est dans le sens, parce qu'il est beaucoup plus haut et qu'il y a toujours eu. Enfin, en France, ça date de la théologie du Moyen Âge, une théologie verticale. Plus c'est haut et plus c'est proche de Dieu. Donc, je pense que dans toutes les civilisations, on peut dire que le cul a toujours été une part maudite, une part méprisée, une part dévalorisée, parce que ça se trouvait à l'arrière et en bas. Ça, c'est très, très vrai. Et en plus, il est évident que le visage, c'est par là où l'on parle, c'est l'expression des sentiments, c'est là où l'on mange, et que l'anus, c'est tout ce qui est rendu, c'est tout le déchet de l'homme, c'est tout ce qui est bas, c'est tout ce qui est lié à ses instincts, c'est tout ce qui est lié à l'animalité de l'homme. Donc il est clair que le visage a toujours été valorisé.
Et vous dites ceci, vous dites la fesse fait plaisir, son embonpoint a quelque chose de réjouissant, surtout dans les caps difficiles, elle réconforte, elle encourage, elle donne envie de croire en l'avenir, en avoir plein les yeux ou plein les mains, provoque une douce sensation d'euphorie. Et vous citez, à juste titre, Topor, qui dit, à propos de la même partie du corps, c'est lisse, ça glisse et c'est beau.
Oui.
Alors voilà, c'est quand même, c'est heureux.
Ça, c'est heureux. Oui, c'est
un
vrai que
heureux.
Aujourd'hui, on se dit à quoi se raccrocher. Eh bien, pourquoi ne pas se raccrocher aux fesses, au fond, puisque toute notre esthétique contemporaine est une esthétique du rond, de l'ovale et du plein. Pourquoi est-ce que toutes les voitures aujourd'hui sont de plus en plus arrondies? Sont de plus en plus lisses. Non, vous savez, moi, quand j'étais jeune, il y avait des espèces de frégates qui avaient des ailerons complètement en angle aigu et qui pointaient. On se disait, mais ça va faire mal. Aujourd'hui, on évite tout ce qui fait mal. Le téléphone est complètement galbé. On a l'impression de savonnette tout le temps. On a l'impression de quelque chose de lisse.
Oui.
Les fesses participent de cette esthétique. En plus, les fesses n'ont aucune espèce d'aspérité. On a encore quelque chose de l'enfance, c'est-à-dire quelque chose des fesses du bébé. On est ravis devant, vous rendez compte, une mère devant les fesses de son bébé.
Vous avez un très joli chapitre,
mon Dieu.
Qui tourne mal, évidemment, mais qui commence gentiment avec le cucu, que vous appelez
voilà,
cucu.
Le cucu, ça, c'est une expression de Gombrowicz. Et le cucu du bébé, ça, la mère est ravie du cucu de son bébé parce que c'est un cucu qui est rond, qui est potelé, qui est innocent, qui est plein de vie. Et plus il sera rebondi, plus elle sera ravie. Alors, évidemment, cette mère, elle est grandie par le cucu de son bébé. L'ennui, c'est que malheureusement, elle le cuculise un peu trop. Et donc, ce bébé, à force d'être cuculisé, en devient un drapeau cucu lui-même.
La croupe, semblant se pâmer, avec sa cadence rythmique, sa rotondité poétique, on l'aimait et la donne-la-moi, Audie, écoute. Je veux la sentir frissonner sous le contact de mon baiser. Donne-la-moi, je la veux toute. Dans son spasme et sa volupté, je la veux dans sa jouissance, comme dans toute sa puissance, dans la neige de sa beauté. Ta croupe en son rythme lent, ta belle croupe qui m'enivre, je veux la posséder en vivre ou bien en mourir doucement.
S'il se fut bien amusé avec ce rameau de badinage et de plaisir, il retroussa ses jupons et sa chemise en les enroulant autour de sa taille. Ainsi arrangée, elle se tenait dénudée de toutes parts. Une rougeur se répandit alors sur son joli visage et ses yeux baissés vers le sol semblaient demander grâce. Puis, déplaçant doucement sa main, que dans un premier mouvement de modestie naturelle elle avait portée là, elle nous fit entreapercevoir, plutôt que voir, cet étroit et doux sillon qui se poursuivait plus bas et nous cachait le reste entre ses cuisses. Mais nous avions une vue complète sur la bordure de boucles brun clair, admirable et abondante, dont l'aspect soyeux et brillant tranchait sur l'environnement de peau blanche. Cette ombre brune en rehaussant encore l'éclat. Son élue s'efforça, elle, toujours debout, de disjoindre ses cuisses pour nous donner une vue plus complète sur ce point central d'attraction. Mais, comme il n'y arrivait pas commodément dans cette position, il la conduisit au pied du sofa et se saisissant d'un des oreillers, il lui pencha doucement la tête, de sorte qu'elle y appuya par-dessus ses mains croisées. Les cuisses largement écartées et le corps cambré, elle nous offrait une vue complète de l'arrière de sa personne, nue jusqu'à la ceinture. Son postérieur, dodu, lisse et proéminent, formait des étendues exubérantes de neige vivante qui remplissaient merveilleusement les yeux jusqu'à la séparation de ces deux exquises collines blanches par un vallon étroit. Parfois, il retirait ses mains des deux hémisphères de ses seins et portait leur pression sur celle plus large qui était l'objet de son tendre blocus. Il les pressait, les saisissait, jouait avec. Enfin, les poussées si vives amenèrent l'apogée de la folie avec un plaisir si irrésistible qu'il lui fallut s'appuyer sur sa blonde partenaire tant il était pantelant, défaillant, mourant, tandis qu'il se répandait d'amour.
Oh, Calcutta, Calcutta, Vous avez dit Clovis Trouille, culte du cul aujourd'hui, culte du cul, la plus vieille religion du monde, honteuse partie soustraite à la lumière, sauf à celle du désir, avec Jean-Luc Hennig pour la sortie de cet ouvrage, une brève histoire des fesses. Alors, bien sûr, on peut parler des fesses jusqu'au fond, jusqu'au bout, et on n'épuisera jamais ce fondement de nous-mêmes, de notre histoire humaine. Et les peintres et les artistes, on en a beaucoup parlé, et ont représenté, on parlait des Grecs tout à l'heure, les fesses humaines. Et dans la peinture, on a parlé de Boucher et Louis XV, ou de Fragonard, par exemple. Et puis dans la peinture, alors, le 19e siècle, la peinture contemporaine, on continue, mais c'est quand même dans la peinture contemporaine qu'on rencontre une sorte de décadence, un peu, tout ça. C'est le 19e siècle qui a été sans doute le plus heureux de ce point de vue, peut-on dire. D'ailleurs, la couverture de votre livre, Jean-Luc Hennig, c'est Sardanapale, le fameux nu cambré de Sardanapale. Et puis, il y a aussi, alors, l'étonnant, le surprenant et le mystérieux Géricault aussi.
Dans la peinture, il y a les fesses d'hommes, il y a les fesses de femmes. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes époques. La grande époque de la fesse d'homme, c'est le XVIe siècle italien. C'est surtout, bien sûr, Michel-Ange. Et puis Géricault et un peu David, donc le XIXe français. Alors Géricault, effectivement, il passait son temps dans les écuries à Versailles et il peignait des culs de chevaux. Mais alors il y en a ces culs de chevaux énormes avec la crinière, etc. Une espèce de palefrenier, d'hommes de labour autour qui présentent leur cul évidemment de la même façon. Et ils sont là en train de lutter ensemble, parce que ils sont pas là posés plan-plan, non, pas du tout. Ils tirent, le cheval se cabre, alors évidemment ils tirent les fesses, alors il y a une espèce de force, de puissance qui arrive. On se dit, mais qu'est-ce qu'il aime bien? Et au fond, on se dit, le rêve de Géricault, c'est le centaure, c'est-à-dire l'homme-cheval. C'est-à-dire une espèce de fusion totale de la fesse de l'homme et de la fesse du cheval. Alors que dans la peinture féminine, c'est très différent. C'est à partir du XVIIIe siècle qu'on a commencé à présenter en France des femmes vues de dos. Avant, on en avait presque jamais.
Avec Boucher, avec Fragonard,
Fragonard, etc. Ouais. Et le pire, si on ose dire, c'est que cette mode est venue de l'hermaphrodite. C'est-à-dire qu'au Louvre, on peut voir dans la salle romaine, là, l'hermaphrodite qui est couchée sur une espèce de matelas. Et cette hermaphrodite, donc, qui a des seins et qui a une verge et qui a absolument un postérieur, mais alors sublime, on ne voit d'ailleurs que ça. Tout le monde, tous les Japonais sont là en train de mitrailler ce postérieur de l'hermaphrodite. Et cette mode de présenter la jeune fille de dos est venue au XVIIIe siècle. Alors au XVIIIe siècle, il y a eu la mode de la petite femme, la petite dodue. Alors on a essayé d'en trouver, on en trouva évidemment très vite, et cette petite dodue, on l'a trouvée entre 12 et 14 ans, elle s'appelait O'Murphy, la Miss O'Murphy. Alors Casanova en parle, et bien sûr, ça a été l'égérie du moment, tout le monde se précipita sur la petite O'Murphy, on savait pas très bien si elle était irlandaise ou si elle était grecque. Alors elle est posée absolument nue au milieu des édredons, on mettait souvent des coussins, vous savez, dessous pour que le postérieur rebique là comme ça. Et puis Louis XV, évidemment, on a présenté ses tableaux. Alors Louis XV avait une phobie, c'était d'attraper une maladie. Vous savez que la vérole, on en mourait à l'époque.
Tout à fait.
Donc il prenait des jeunes filles vierges qu'il tâtait auparavant. Donc la petite O'Murphy, raconte Casanova toujours dans ses mémoires, il l'a tâtée pour voir si vraiment elle était comme il faut, et elle avait 12-14 ans, hein. Elle avait des cheveux courts, un petit peu noués sur le derrière de la tête, un petit ruban bleu, et elle était très potelée, très mignonne, très très aguichante. Et cette jeune personne apparaît évidemment dans toute la peinture du XVIIIe siècle, c'est elle.
Qu'est-ce que vous racontez là? Êtes-vous donc tombé si bas que ça?
Oui.
Où ça?
Sur les fesses.
Je sais pas si vous avez remarqué, on dirait que depuis quelques années, tous dont on entend parler, c'est...
Les fesses.
Y a
en a des rondes, il y en a des plates, il y en a des fermes, il y en a des flasques.
Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses.
Il y en a des grosses, des petites carrées, il y en a pour s'asseoir, d'autres pour s'amuser.
Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses.
Il y en a des vaches, des déprimés, et il y en a de la haute société.
Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses.
Il y en a des belles à regarder, il y en a qui sont à éviter, mais qu'on les aime, qu'on les aime pas, si on avait pas, on serait pas là.
Les fesses, les fesses, les fesses.
Mieux vaut un paix sonore qui franchement résonne qu'un paix silencieux qui lâchement empoisonne. Jean, ce fouteur invaincu, au soir dans une taverne, fout à Lise à la moderne, c'est-à-dire par le cul. Elle, qui veut qu'on l'enfile selon sa nécessité, disoie d'un cœur irrité qu'un clistère est inutile à qui crève de santé. Éloge du cul de Dame Catherine. L'ivoire et le lait sont incapables de soutenir une lutte avec ce cul. L'albâtre le plus pur et la neige immaculée lui cèdent la palme. Les colombes sont des négresses et les cygnes des nègres. Auprès de ce cul, le lys et le jasmin n'ont plus l'air d'être des fleurs. Si les bardaches avaient ce cul, ils pourraient gagner des trésors, mais ils seraient plus beaux encore s'ils ne chiaient pas.
Ravissant, hein, ces poèmes de Bafaud, de Cléland, les textes de Cléland, etc. On continue avec Jean-Luc Hennig, quelques considérations oiseuses, non, ou précises, ou érudites, en tout cas attentives, et pour tout dire assez passionnées, sur le cul. Alors, brève histoire de fesses, Jean-Luc et Nick, on continue avec alors tous les noms d'oiseaux dont on baptise les fesses. Il y a eu l'époque des blasons du corps féminin,
oui.
au XVIe siècle, c'est ça, où les poètes alors s'évertuaient à dépeindre telle partie du corps féminin,
oui.
Et évidemment, alors
évidemment le cul.
Le cul a été décrit, peint, repeint, éventé.
Oui, cela dit, c'est une époque qui a disparu. Aujourd'hui, on a beau regarder dans les romans, j'ai cherché beaucoup des vocations un peu longues.
Ah oui, c'est très érudit.
J'ai trouvé un romancier français qui a beaucoup parlé des fesses, c'est Patrick Grainville. Il y a un beau livre qui s'appelle Le paradis des orages, où il raconte comment, étant prof dans la banlieue parisienne, il séduit un peu toutes ses lycéennes, il les amène chez lui, et la première chose qu'il fait, c'est de contempler leurs fesses, c'est ce qu'il raconte, c'est le narrateur, bien sûr, qui raconte ça.
Toute ressemblance avec
c'est tellement bien décrit qu'on se dit vraiment que c'est étonnant. Hein. Alors, il y a des jeunes filles un peu, comment pourrait-on dire, des îles, c'est-à-dire des jeunes filles qui arrivent des Caraïbes, qui ont un postérieur absolument, alors qu'ils sont
bien
déçus.
Pourvus,
oui, qui sont déçus de ne pas être aimés pour leur âme, qui sont déçus d'être aimés pour leur cul. Oui. Manifestement, c'est ce qu'il dit, en tout cas. Oui. Alors, ce qui est amusant dans le nom des fesses, c'est que fesses, ça vient de fissum, qui veut dire la fente. Alors, vous avez beau regarder dans un dictionnaire aujourd'hui, hein, vous ouvrez le Robert, vous ouvrez le Larousse, vous trouvez aucune évocation d'une fente. On parle d'hémisphère, on parle de sphère, on parle de tout ce qu'on veut, mais la fente a disparu. C'est comme si aujourd'hui on avait perdu, parce qu'en fait au début c'était vraiment la fente. Au début on appelait les fesses des naches ou des nages. Et puis la fente, c'était la fesse. Et puis finalement, la fesse a tout pris parce que c'était joli et tout ça. Alors la fesse, évidemment, on l'a appelée de tout un tas de noms que vous avez rappelés tout à l'heure. Mais en gros, ça tourne toujours autour de l'idée du pétard, à cause de la fonction un peu acoustique, si vous voulez, musicale.
Ça, là vous êtes, on n'a pas du tout évoqué cet aspect quand même. Il y a quand même, il y a le pain de fesse.
pain, le pain.
Ah, le
de
pain,
fer,
oui. Ah, il y a une un côté très nourriture aussi.
Très nourriture.
Bien sûr, il y a les pêches, il y a les noix, il y a tout ça, il y a les petits pains, il y a tout ça. Et puis il y a bon, il y a la lune aussi, tout ce qui est long, rond et rebondi. Et puis il y a le derrière, bien sûr.
Et puis ça a été une ressource pour certains pétomanes. Le pétoman se perd un petit peu de nos jours, mais il y a eu de fameux pétomanes qui ont pu faire fortune grâce à cette partie de leur anatomie. Je connais, à ma connaissance, il y a pas de sculpture ou de statue au pétoman.
Je ne crois pas. Mais vous savez, même les statues, la statuaire ancienne là, du paléolithique, on a retrouvé tout un tas de déesses dont on a toujours dit et dont on lit encore aujourd'hui que c'était des déesses de la maternité. Mon œil, c'est le cas de le dire, parce que en fait, ces femmes sont énormes, elles ont des fessiers gigantesques, elles ont des seins magnifiques. Et en fait, on a montré qu'elles étaient très rarement enceintes. En fait, il s'agissait de déesses, au contraire, de la volupté. C'était des déesses faites pour, bien sûr, pour les moissons, pour tout ça, mais c'était aussi pour faire monter le sexe de l'homme, c'est évident.
Et puis, évidemment, on sait les histoires dans la littérature, la censure, le combat de gens comme Losfeld, de Pauvert, etc. Ah, oui. Comment, petit à petit, ont été dévoilés alors des textes d'auteurs fameux, et alors on a découvert que des gens comme aussi respectables qu'Aragon, pour citer Clou, enfin beaucoup, la plupart, les plus grands écrivains de notre littérature,
Le Comte d'Irène ou les Aventures de Jean Foutre Labitte, de Aragon.
Mais alors lesquels, du point de vue qui nous intéresse, c'est-à-dire ces deux hémisphères, est le plus vous semble le plus pertinent?
Vous savez, ils ont je les ai lus et relus, c'est le cas de le dire. Bon, on pourrait citer quelqu'un dont je ne parle pas dans ce livre qui a fait Lourdes Lente, qui s'appelle Ardelais.
Magnifique.
Effectivement, il reprend la tradition du blason et il y a toute une évocation des fesses. Bon, celui que je cite, c'est Calafert. C'est-à-dire, dans Septentrion, qui est son grand livre quand même, il est particulièrement attentif à chaque fois au postérieur de la standardiste, au cul hydropique de l'héroïne principale, au cul petit mignon dans sa jupette de la serveuse, au cul de la fille dans le métro qui attend, etc., et qui se dandine en attendant, en se disant, mon Dieu, mais c'est une bonne occasion pour se dandiner davantage. Et puis, la rue tourbillonne de cul. La rue tourbillonne entièrement.
C'est pas cher. C'est ça qui est formidable avec le cul, c'est que ça coûte pas un rond, quoi.
Et oui. Et en plus, on peut pas parler de harcèlement sexuel. Parce que, bon, je sais bien que certaines, femmes aux États-Unis vont même jusqu'à dire que le regard lui-même est, une espèce d'agression. Mais en fait, la fesse, d'une part, et d'autre part, la fesse est bien placée parce que justement elle est derrière. Donc c'est une fesse en fait qu'on ne surveille pas constamment.
Oui.
Sinon, évidemment, on ne ferait pas attention où on va. Donc c'est une fesse qu'on peut shipper. Et shipper un cul comme ça qui passe, c'est un moment de bonheur. Pour moi, pour toute la journée, j'y pense. Hein, ça. Moi, pour moi, ma journée est gagnée si je vois un beau cul qui passe, comme dirait Musset. Enfin, il disait pas tout à fait ça, il disait une belle nuit qui passe.
Et voilà à quoi on nous oblige pour essayer de faire remonter l'écoute de France Inter. C'est terrible, c'est absolument consternant. Alors je vous rappelle le titre de ce livre, Une brève histoire de fesses de Jean-Luc Hénick. Ça vient d'être réédité chez Zulma. Merci à tous, merci à Sylvie Caspard dont vous avez reconnu la voix, c'est la voix de la comédienne d'Arte, mais oui, technique aujourd'hui, Michel Thomas et Antoine Biossal, ne fait pas que ça, bien sûr, évidemment. Assistant Edouard Rex. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. C'est Christophe Imbert qui s'en occupe. Les musiques, c'est Koyen Guyenne. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission. Modeste génial.